Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale organisée en partenariat avec les Francas de l'Ain. Bonjour Corentin Capliès-Diez.
Bonjour Élodie.
Corentin, vous êtes salarié des Francas de l'Ain. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter les missions des Francas ?
Bien sûr, nous sommes une association d'éducation populaire complémentaire de l'école et agissant sur les différents temps de l'enfant, péri ou extrascolaire. Si je peux résumer brièvement notre but, je dirais que c'est de faire en sorte que les droits de l'enfant soient connus et reconnus en passant par de la formation, de l'animation ou encore des actions envers les politiques d'enfance-jeunesse.
Et pour cette émission, c'est un partenariat qui s'est monté entre vous, les Francas, Radio B et la Sauvegarde de l'Enfance, dans le cadre d'un appel à projet, le Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, porté par la préfecture de l'Ain.
Tout à fait. Nous sommes trois associations qui travaillent déjà ensemble toute l'année et qui coopèrent à nouveau sur ce projet. Cette émission s'inscrit dans le cadre de plusieurs actions liées à l'information et à la prévention du phénomène sectaire. Nous y reviendrons à la fin de nos échanges.
Et pour compléter ces actions, cette émission autour des influences extérieures, on reviendra là-dessus un peu plus tard avec notre invité. Avant de vous dire que nous sommes en direct et en public de la médiathèque Césaire de Bourg-en-Bresse, merci à la ville de Bourg et à ses équipes pour leur accueil. Vous pouvez encore nous rejoindre à tout moment à la médiathèque. Pascal Duval, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice et porte-parole de l'UNATFI. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce qui se cache derrière ce sigle ?
Alors nous sommes également une association d'éducation populaire puisque notre objectif est de faire de la prévention sur le phénomène sectaire. Mais ce serait complètement injuste de ne pas dire que notre association qui a cette année 50 ans est née en fait de parents dont les enfants avaient été happés par des mouvements sectaires, qui se sont réunis d'abord à Rennes, puis à Paris, à Lyon, pour essayer de faire quelque chose et récupérer leurs enfants. Et donc, c'est il y a 40 ans qu'est née l'Union à cause d'une nécessité, si vous voulez, que tous ces parents se regroupent pour pouvoir agir au niveau national. Voilà.
Concrètement et en quelques mots, c'est quoi vos grandes missions ? Comment vous agissez ?
Alors, nos grandes missions, donc, c'est la prévention. La première étant l'accompagnement des victimes donc, de mouvements sectaires. La prévention et, depuis peu, la formation, puisqu'on a ouvert une activité formation. Voilà.
Alors pour cette émission, on va échanger autour des phénomènes sectaires, de leur influence possible et surtout comment s'en protéger et protéger nos enfants.
Vous écoutez Radio B.
On l'a dit en présentation, hein, la spécialité de l'UNATFI, c'est la lutte contre les dérives sectaires, donc un travail sur les notions d'emprise. Tout d'abord, revenir sur un point de vocabulaire, ça veut dire quoi l'emprise ?
Ah. L'emprise, c'est à partir du moment où une tierce personne va exercer donc une emprise sur vous, c'est-à-dire qu'elle va vous assujettir, faire de vous son sujet, et va le faire de façon intentionnelle. Hein. L'intentionnalité a beaucoup d'importance quand on parle d'emprise. Donc voilà, on va dire que donc toutes les victimes qui viennent chez nous, qui s'adressent à nous, sont des personnes qui ont été victimes d'emprise, c'est-à-dire assujetties par une tierce personne. Soit pour vivre de toute façon un peu difficile, soit pour certaines ça se passe bien parce qu'elles ont besoin de cette emprise pour vivre. Il ne faut pas croire que toutes les personnes qui sont dans des mouvements sectaires sont mal. Il y en a qui sont bien et ils sont très surpris quand on leur dit si vous y êtes bien, restez-y. Mais pour ceux pour qui ça se passe mal, effectivement, c'est le fait qu'ils aient été assujettis. Et parfois, et ça c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est une phrase d'ancien adepte, c'est le fait que l'emprise leur a fait accepter l'inacceptable.
Comment ça marche, cette emprise ? On en reparlera, j'imagine, un petit peu plus tard dans l'émission, mais c'est des leviers qui s'activent. Comment ça se met en place ?
Alors, c'est très progressif. Déjà, c'est jamais violent. On arrive à être sous emprise parce qu'on est d'abord en confiance. On compare souvent la rencontre avec le groupe ou la personne qui va vous mettre sous emprise au tombé amoureux, en fait, hein, c'est-à-dire que vous êtes dans une période un peu de difficulté, de fragilité dans votre vie, et tout à coup, il y a une rencontre qui fait que vous avez la sensation que tout va se passer bien. que votre vie va changer et que du coup, c'est pas de l'emprise, c'est de l'adhésion. C'est-à-dire qu'au départ, les personnes ont l'impression d'adhérer en fait volontairement, et c'est pas qu'une impression d'ailleurs, ils adhèrent volontairement. Mais progressivement, des techniques vont être mises en place, comme le manque de sommeil, le manque de nourriture, l'absence de soins, des rituels quotidiens, qui vont amener progressivement la personne donc à être sous emprise. Et on dit que la personne est sous emprise à partir du moment où elle va s'interdire complètement de douter de la personne qui l'a mise sous emprise ou de la doctrine. Je vous reparlerai certainement de la doctrine parce que la doctrine est aussi importante que celui qu'on appelle le gourou. Ça fonctionne ensemble. Donc d'où le mot endoctrinement, hein, c'est ça. C'est-à-dire que la personne est sous emprise quand elle est endoctrinée et quand elle s'interdit, elle va s'interdire de douter de la doctrine justement.
Vous parlez également dans vos travaux de radicalisation, de complotisme. Quels sont les liens et les différences que vous faites entre tous ces termes ?
Alors, pour nous, la radicalisation, elle s'exerce à partir du moment où vous allez adhérer de façon radicale, c'est-à-dire de façon extrême, à une croyance. À l'UNADFI, nous sommes convaincus que ça s'applique à toutes les croyances. Donc, la différence peut-être, hein, c'est-à-dire qu'à une époque où on a beaucoup parlé de la radicalisation islamique, nous, on a beaucoup regretté qu'il n'y ait pas forcément systématiquement le mot islamique derrière radicalisation, parce que dans la tête des personnes, le mot radicalisation, et je dois dire, excusez-moi de le dire là, mais que c'est un peu de la faute des médias, le mot radicalisation a été assimilé à radicalisation islamique, voire à terrorisme. Or, et on le voit aussi dans le phénomène sectaire, le passage à l'acte, c'est autre chose que de la radicalisation. Vous avez des personnes qui sont radicalisées, c'est-à-dire qu'ils croient de façon extrême à une croyance. Ils vont adhérer de façon extrême à une croyance, mais pour autant, ils ne vont pas passer à l'acte.
Pour revenir sur la notion de complotisme.
Voilà, justement. C'est ça. Il me semblait bien que j'oubliais quelque chose. Sur la notion de complotisme, on observe un peu les mêmes mécaniques. On observe les mêmes mécaniques, les mêmes processus psychologiques d'emprise et de radicalisation, en fait. Et donc, qui amènent aux mêmes conséquences. Et ça, j'insiste là-dessus parce que c'est très important. Quand on me dit, oui, mais quand on croit beaucoup, il y a des cathos, alors je vous le fais de façon un peu... Voilà. Il y a des cathos qui sont très croyants et qui sont radicaux. Non, ce n'est pas tout à fait la même chose. On peut être très pratiquant, que ce soit catho, islamique, enfin musulman, je veux dire. On peut adorer le yoga et pratiquer beaucoup le yoga, mais ça devient embêtant. C'est-à-dire que ça devient, on parle de situation sectaire, à partir du moment où l'emprise plus la radicalisation a amené à ce qu'on appelle la triple rupture, c'est-à-dire ça a amené l'individu, c'est-à-dire que cette emprise et cette radicalisation a amené l'individu à rompre avec lui-même, avec ce qu'il était auparavant. Et là, vous avez tout un tas de signes extérieurs qui peuvent déjà vous mettre en alerte. La deuxième rupture est celle avec l'environnement, c'est-à-dire que la croyance devient plus forte que tout, donc plus forte que soi, mais aussi plus forte que les gens qu'on aime. C'est là que vous voyez des ruptures avec la famille, avec les parents, avec les amis, mais aussi avec son travail, chez les jeunes, avec leurs études. C'est ce qu'on appelle donc la rupture avec l'environnement. Et celle dont on parle le moins, mais que je trouve intellectuellement la plus intéressante, c'est la rupture avec la société. Et celle-là, elle est très importante, et notamment dans les théories du complot. Cette rupture avec la société, si vous reprenez l'exemple de l'attaque du Capitole, qui a été globalement menée par QAnon, QAnon a bien amené les gens à rompre avec la société, puisque rompre avec la société, c'est rompre avec les règles de la société. Et chez beaucoup de théoriciens du complot, on assiste actuellement soit donc à une rupture totale. Tout le monde a vu le... C'était quoi sur les réseaux sociaux là, il y a eu un truc qui est passé en boucle d'un couple qui était très fier de dire qu'il rompait avec la société, c'est-à-dire qu'il refusait de présenter ses papiers.
Je ne contracte
voilà,
pas.
Voilà, merci. Je ne contracte plus, c'était ça. Mais ça, c'est un exemple, j'ai envie de dire, presque un peu drôle. Mais ces exemples-là, il y a des exemples très concrets. Donc on assiste soit à cela, c'est-à-dire à des gens qui vont arriver à un moment refuser de respecter les règles de la République, que ce soit la laïcité, que ce soit les lois. Et aujourd'hui, on assiste à des créations de mini-communautés. Donc ça, c'est une nouvelle... alors ça a existé, les communautés, mais ça revient. Ça revient sous forme d'éco-villages. Ça revient sous forme de petites communautés comme ça, qui de loin ont l'air plutôt sympathiques, un peu comme dans les années 60 avec les hippies qui paraissaient fort sympathiques, mais en fait qui véhiculaient des idées un petit peu dangereuses pour la société quand même.
Est-ce que du coup on peut considérer les communautés complotistes comme des mouvements sectaires à part entière, avec des gourous, des doctrines plutôt rigides ?
Votre question est intéressante parce que on est tous d'accord qu'on parle des théories du complot depuis le Covid. On a l'impression que tout le monde a découvert les théories du complot au moment du Covid. Or, toutes les doctrines sectaires, ce sont des théories du complot. Pourquoi pensez-vous que l'OTS est parvenu à tuer 94 personnes, dont 7 enfants ? C'était sur la base d'une théorie du complot, en fait. C'était sur la base du fait qu'on leur a promis que s'ils se brûlaient, la fumée partirait sur la planète Sirius, où ils se réincarneraient et où ils revivraient une vie meilleure. Donc pour nous, la théorie du complot, c'est de toute façon... Alors, je pense aussi à Guylaine Langteau. Guylaine Langteau, je la cite parce que... Elle est au Canada, et puis je m'en fiche, je la cite. Voilà. Guylaine Langteau, elle est intéressante parce que nous, on la suit comme gourelle de la santé depuis très longtemps. Et aujourd'hui, quand je l'observe, je me dis, mais en fait, c'est une théoricienne du complot. C'est-à-dire, c'est une personne qui fait croire que la médecine conventionnelle est dangereuse, qu'il faut substituer les traitements des médecins par des traitements alternatifs, si on peut appeler ça des traitements alternatifs. Dernier exemple en date, un homme atteint du sida en Angleterre qui a arrêté sur les conseils des vidéos de Langteau de prendre sa trithérapie, et au lieu de vivre des années comme le promet la trithérapie, il est mort un an après parce qu'elle lui a conseillé de remplacer la trithérapie par de l'eau salée. Donc Guylaine Langteau, c'est aussi une théoricienne du complot. Donc voilà, aujourd'hui, la théorie du complot, malheureusement, est à la mode. C'est ça qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire que nous, ce qu'on observe et qui nous paraît dramatique depuis 50 ans, donc, aujourd'hui, se met à vivre comme si c'était quelque chose de normal et comme si c'était quelque chose d'utile à notre société. Donc je pense qu'il y a des chercheurs qui vont travailler là-dessus. Mais en tout cas, oui, c'est fort intéressant. Et j'espère m'être bien fait comprendre sur les liens entre le sectarisme et le complotisme, parce que pour nous, il y a vraiment les mêmes mécaniques et les mêmes processus psychologiques.
Quand on a l'image d'une secte, on imagine la doctrine derrière, on imagine le gourou. Enfin voilà, on a aussi les images des films, des séries. Il y a tout un imaginaire aussi qui est basé sur des faits. Hein. Les théories du complot, ça peut être aujourd'hui penser que la Terre est plate, remettre en cause ou relativiser le 11 septembre. En quoi il y a un lien là avec des doctrines ?
Ben, y a toujours une doctrine, justement. À partir du moment où vous croyez que la Terre est plate, on est bien dans le domaine de la croyance. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour QAnon. Qu'est-ce qui a fait que des gens se sont rassemblés pour faire le même geste ? C'est bien parce qu'ils étaient réunis autour d'une doctrine. Une doctrine est un faisceau de croyances. Donc, c'est vraiment... Pour moi, la doctrine est presque plus importante que le gourou. Le problème, c'est que la justice a besoin d'incarner le mal pour pouvoir punir et sanctionner. Mais la doctrine, elle est fondamentale dans ce que je suis en train de vous expliquer. Il y a toujours une doctrine à la base des comportements des personnes. Je prends par exemple l'antivaccinisme. Les gens se sont opposés au vaccin. Pareil, encore une fois, pour tout le monde, ça s'est arrivé au moment de la Covid. Mais nous, le dossier anti-vaccinisme, il a au moins 20 ans. Je me souviens qu'en 2015, on était déjà sur des enfants décédés de la rougeole, alors qu'aujourd'hui, on ne devrait plus mourir de la rougeole. Et la seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est, et donc sur des théories du complot, fomentées par des théoriciens du complot, mais par des mouvements sectaires aussi, parce que tout ça, c'est la même chose, c'est la même doctrine. Donc, alors, il y a deux doctrines différentes pour les anti-vaccins. Il y a celle qui considère, ceux qui considèrent que c'est Dieu qui décide de tout. Donc, ce n'est pas la peine de se faire vacciner parce que, de toute façon, c'est Dieu qui décidera si vous êtes en bonne santé ou pas. Et il y a ceux qui sont plus proches de la mouvance New Age et qui pensent que l'individu a la capacité personnelle de pouvoir se défendre des maladies et qu'en plus, ça peut abîmer vos vies futures, puisque en général, enfin, c'est pas en général, c'est tout le temps, dans la doctrine, il y a la croyance en la réincarnation.
Voilà. Peut-être que sur les théories du complot actuelles, en fait, celles qu'on connaît et qui sont visibles aujourd'hui, on ne voit pas justement ces gourous. Ils ne sont pas aussi visibles. Avant de prendre le micro, on parlait de Raël, qui est un exemple de gourou français. Tout le monde a l'image de Raël et on l'imagine ses adeptes autour de lui, etc. Pour des théories comme celle de la Terre plate, celle du 11 septembre, on n'a pas forcément une figure rattachée à ces théories-là.
Alors parce que elles trouvent leur antériorité, enfin c'est très vieux. Tout ce dont on parle, enfin presque. Vous avez compris qu'il y avait deux grandes mouvances. Les religieux extrémistes, en fait, hein, ou des fois c'est même des pseudo-religions, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont un peu dévié des religions classiques. Et donc, vous avez la mouvance New Age. C'est vraiment les deux gros groupes, en fait. Le New Age, il ne date pas des années 60, comme beaucoup le pensent, et du mouvement hippie, ça n'a pas grand-chose à voir. Les bases idéologiques du New Age, remontent à la fin du 19e siècle. Donc, c'est pour ça que vous ne connaissez pas le gourou. Parce que c'est un mouvement qui est né à l'époque, je vous aurais dit, on serait fin 19e, début 20e, je vous dirais, le gourou, elle s'appelle Elena Blavatsky. Bon, Blavatsky est morte depuis très longtemps, mais elle a laissé, en fait, derrière elle, toute sa doctrine, et elle a fait des enfants, que j'appelle les descendants de Blavatsky, les descendants de la société théosophique, Raël en fait partie. Voilà. Et d'ailleurs, c'est bien que vous me parliez de Raël. J'ai même envie de dire pourquoi on a parlé de Raël tout à l'heure. On a parlé de Raël tout à l'heure parce que je vous expliquais que l'UNADFI, on croit toujours qu'il n'y a pas de lobby chez tous ces gens parce que c'est des petites communautés, c'est des petits gens gentils, un peu farfelus, mais pas du tout. Ce sont des gens extrêmement bien organisés et on est à peu près à 4 attaques en diffamation par an. Et que la dernière, voilà pourquoi je lui ai dit, la dernière, c'est Raël qui nous l'a envoyé. Et donc, vous me disiez que vous étiez étonné. Ben non, Raël existe encore et il a encore une capacité de nuisance pour tous ceux qui veulent simplement soulever leur masque. Voilà. Nous, on soulève le masque, on dit, voilà ce qui se passe derrière cette apparence presque folklore des fois. Hein, c'est un peu folklorique, Raël. Et ben nous, on soulève le masque. Et comme on soulève le masque, on a des procédures bâillon très régulièrement.
Pour justement faire le lien avec ces croyances et ceux qui y croient, quels sont les publics les plus enclins à tomber dans ces phénomènes-là ? Est-ce qu'il y a un âge, une catégorie sociale particulière, un genre ?
Ben non. Non, on est tous, autant qu'on est, de possibles victimes de mouvements sectaires, dans le sens où ces mouvements-là, ou même pour les théories du complot, encore une fois, hein, quand je parle du phénomène sectaire, je parle aussi du phénomène complotiste, vous happe au moment de fragilité de votre vie. Donc on traverse tous des moments de fragilité, un deuil, une séparation, un échec scolaire, donc tous les âges et, toutes les personnes. J'ai quand même envie de dire que jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était plutôt les CSP+, hein, donc plutôt des gens plutôt aisés, plutôt qui ont fait de longues études. Les théories du complot ont amené une catégorie de personnes diplômées et un peu moins haut socialement. Mais c'est assez récent, c'est vraiment depuis que les théories du complot sont, comme je vous le disais tout à l'heure, devenues à la mode, malheureusement.
Si on se concentre sur les enfants et sur les jeunes, est-ce que c'est un phénomène en augmentation dans cette tranche d'âge-là ou pas ?
Nous, c'est pas ce à quoi l'UNATI assiste. Après, je n'ai pas les chiffres de statisticien. Mais en tout cas, à l'UNATFI, j'ai même l'impression que Plus on est d'une génération qui n'a pas vraiment bien connu Internet, et plus on est fragile parce qu'on ne connaît pas les pièges d'Internet. Je veux dire que je suis pas jeune, mais comme j'ai toujours travaillé sur l'informatique et fait ce genre de recherche, du coup je vais être attentive, moi particulièrement. Mais des personnes qui ont mon âge et qui n'ont pas forcément eu un travail qui les a amenés longtemps sur Internet ne sont pas préparées à ce genre de piège. Je me souviens d'une personne âgée un jour qui m'a dit Kenji Girac est mort. La nouvelle ça me traumatisait pas non plus, mais mon premier réflexe a été de lui dire mais est-ce que vous avez vérifié comment vous l'avez su, donc Internet, bon, elle avait 80 ans hein. Et donc je l'ai amenée sur Internet, sur sa tablette, et j'ai dit on va prendre des sources plus fiables, donc on va prendre des journaux plus fiables, et j'ai dit bah tiens c'est bizarre, on trouve pas cette nouvelle sur ces journaux là donc vous voyez que pour moi vraiment les personnes plus âgées et moins préparées à Internet sont peut-être un peu plus fragiles.
Oui, bah, c'est avéré que c'est les personnes âgées qui propagent le plus de fausses informations sur les réseaux sociaux. Au-delà de la notion d'étrange d'âge, il y a des événements de vie qui rendent plus enclins à succomber à ces phénomènes d'emprise. Est-ce qu'on peut évoquer ces moments ? Est-ce que vous pouvez nous en reparler ? Comment ça se passe, en fait ? C'est parce que les personnes se retrouvent esselées ? Est-ce que c'est l'idée d'un membre de la communauté ? Vous avez dit que le fait de retrouver une communauté via la secte, ça, c'était quelque chose qui était intéressant.
Oui, alors ça, c'est vrai que ça a été très intéressant. Les théories du complot ont augmenté pendant la Covid, c'est vrai, parce que... alors, pas le phénomène en règle générale. Celui-là, surtout au niveau de la santé, je tiens à préciser que pour nous, il n'y a pas eu une augmentation du phénomène, mais c'est en fait qu'il y a eu un phénomène de loupe sur le phénomène. C'est-à-dire que les médias s'y sont plus intéressés, donc forcément l'opinion aussi. Voilà. Mais ça a toujours existé, ça c'est sûr. Du coup, j'ai oublié votre question.
Moi-même, je l'ai oublié. Non, c'était sur ces moments de vie, en fait, que vous avez cités, les moments de deuil, de séparation, de sentiment d'échec. Comment vous expliquez que ces moments-là sont des moments où on peut être happé, en fait, par ces théories ou ces rencontres ?
C'est des moments où on recherche du réconfort, de la bienveillance. Pour répondre à votre question, si vous me le permettez, je vais prendre un exemple d'une jeune femme que j'ai eue au téléphone un jour et qui m'a dit « il faut que vous arrêtiez de parler du mal de mon groupe parce qu'ils m'ont sauvée. J'y suis bien. » Donc je lui dis « si vous y êtes bien, restez-y. » Elle me dit « mais pourquoi vous avez écrit autant d'horreurs sur le leader de son groupe ?» Je lui dis « j'ai pas écrit des horreurs. » Et puis figurez-vous que cet article, en plus, c'est moi qui l'ai écrit. Et je me suis servi, donc quand on est à l'UNELFI, quand on écrit des articles, c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sources. Et là, pas de bol, c'est moi qui l'avais écrit. Et je m'étais servi à 50% des témoignages des victimes pour qui ça ne s'était pas bien passé, et à 50% des témoignages, enfin des écrits de son gourou. Et les passages qu'elle me citait qui la choquaient, c'était les passages que son gourou avait écrits. Et donc je lui ai fait remarquer. Et je lui dis, si ça vous choque et si ça vous déçoit, j'en suis désolée parce que je sens bien que je vous annonce une mauvaise nouvelle. Mais peut-être aviez-vous besoin d'entendre ce que j'ai à vous dire pour vous faire une vraie idée et donc mettre en œuvre votre esprit critique parce que je vous ai donné tous les éléments pour pouvoir réfléchir à votre situation. Et donc, du coup, elle se confiait à moi en disant qu'elle était au bord de... elle était en train de devenir droguée, enfin voilà, et que du coup, elle les avait rencontrés dans la forêt. Je donne des indices. Elle les avait rencontrés dans la forêt, et puis voilà, et ça s'était super bien passé. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous vous êtes demandé si vous aviez poussé la porte d'un club d'échecs ou d'un club d'escalade avec une équipe super sympa, il se serait peut-être passé la même chose. Et là, j'ai eu un blanc. Et elle m'a dit « Je vous remercie, madame. » Et on a raccroché. Donc, vous voyez, en fait, c'est ça. C'est des moments de fragilité. Et vous avez l'impression, parce que vous êtes tombé sur eux, mais vous êtes tombé sur eux parce qu'ils vous cherchent. Eux vous cherchent. Vous ne les cherchez pas, mais eux vous cherchent. Et donc, c'est parce qu'ils ont réussi à mettre le grappin sur vous et à vous faire croire que vous alliez mieux grâce à la doctrine. Et en fait, c'est grâce à la chaleur humaine. C'est uniquement ça.
Vous avez parlé tout à l'heure des catégories socio-professionnelles, en citant notamment les CSP+. À votre avis, pourquoi c'est plus ces catégories-là de personnes qui seraient touchées ?
Ben c'est très bien, les deux questions vont très bien ensemble, parce que c'est exactement la même chose, parce que c'est ceux qui sont plus ciblés par les mouvements sectaires. Plus vous êtes CSP+, mieux vous gagnez, plus vous pouvez rapporter. Il y a cet aspect-là, il y a l'aspect économique. Et il y a quelque chose d'assez... une autre logique... une autre idée tout aussi logique, c'est que ceux qui ont fait beaucoup d'études en général sont un peu curieux toute leur vie, et que plus vous êtes curieux et plus vous cherchez à apprendre, plus vous pouvez être attiré parce que vous ne comprenez pas, et que du coup vous allez aller chercher des réponses. Toutes les personnes qui rentrent dans un mouvement sectaire ont toujours de bonnes questions. Ils y vont avec de bonnes questions. C'est les réponses qui sont mauvaises.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en préparant l'émission, moi j'avais plutôt une image hyper traditionnelle des sectes, comme quelque chose un peu d'arriéré, de pas très moderne. C'est pas du tout ce qui correspond à l'univers du complotisme qui se déploie là. En plus, vous l'avez dit, hein, sur Internet, les réseaux sociaux, et puis c'est à la mode, comme vous l'avez dit aussi. En fait, les sectes, aujourd'hui, elles recrutent sur Internet. C'est un outil ?
Bien sûr. Moi, je ne voudrais pas faire ma vieille, mais bon, c'est un peu quand même. Je suis rentrée à l'UNATFI, je découpais encore la presse dans le journal, enfin papier. Donc là, maintenant, vous imaginez bien que la revue de presse ne se fait que sur Internet, même si Google nous fait des problèmes parce qu'on a des difficultés à rechercher en ce moment. Mais globalement, oui, on est passé sur Internet. Et effectivement, toute l'information est sur Internet. À l'époque, c'était très facile. On récupérait, parce que ils faisaient leur pub par des flyers, sur du papier. Donc nous, on récupérait ça assez facilement. Donc on pouvait savoir où ils recrutaient, comment, etc., etc. Aujourd'hui, il faut qu'on ait la chance de tomber sur le site. C'est pas du hasard, c'est souvent parce qu'on nous fait des signalements que du coup on va faire des recherches et qu'on se dit tiens, il y a encore un nouveau mouvement sectaire qu'on ne connaissait pas. Et effectivement, elles arrivent à se démultiplier parce que, en fait, encore une fois, c'est toujours les mêmes doctrines en fait. Donc il suffit de reprendre ce que Pierre a fait et Paul en rajoute. C'est comme une recette un peu. Hein. Vous avez les bases donc de la société théosophique et après chacun fait sa petite recette et la vend. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Si vous prenez la scientologie, Raël, c'est la même base doctrinale. Vous avez la référence aux extraterrestres. Le New Age, c'est ça, hein, c'est une référence aux extraterrestres, la croyance à la réincarnation, au karma, aux énergies positives. On n'entend que ça aujourd'hui. Voilà. C'est la même base doctrinale. Et après, chacun a fait sa petite recette et a rajouté son petit truc. Et puis, il y a des fois où ça marche bien et des fois, ça marche moins bien. Mais souvent, ça marche bien, malheureusement.
Est-ce qu'il y a des endroits sur Internet où c'est plus facile, justement, d'aller vendre sa doctrine ? Je pense à
aux réseaux sociaux.
Chaînes YouTube.
Ouais. Oui, parce que ça, c'est un autre phénomène de notre époque, il faut faire avec. Hein. L'image passe mieux que le texte. Nous, on continue à écrire. On a du mal à passer à l'image. Bien qu'on a commencé quand même. Mais oui, tout passe facilement par l'image. Et donc, c'est pour ça que ça va vite aussi.
Il y a en France encore, à l'heure actuelle, 19 écoles Steiner, souvent perçues comme des alternatives positives à l'éducation traditionnelle, axées sur la créativité et l'épanouissement personnel. Quels aspects précis de leur fonctionnement peuvent soulever des questions d'après vos recherches ? Y a-t-il d'autres écoles dites à pédagogie nouvelle qui vous alertent ?
Alors, ma réponse va certainement être un peu longue parce que votre question n'est pas... elle est facile, mais je voudrais vous l'expliquer de façon claire pour être sûr d'être bien correct et que tout le monde comprenne exactement ce que je veux dire. Les écoles Steiner, il faut commencer par dire que les écoles Steiner sont une entité...
Tiens donc, c'est bon, on peut y aller.
Les écoles Steiner donc, sont une entité de l'anthroposophie. L'anthroposophie est une petite sœur de la société théosophique. Voilà, déjà. Donc Steiner est théosophe et pour des raisons tout à fait basiques, c'est-à-dire qu'il voulait être chef de la théosophie et qu'il n'a pas réussi, donc il a fait l'anthroposophie. Il a fait sa petite recette, comme je viens de vous l'expliquer. Donc il a fait son anthroposophie et donc effectivement les écoles Steiner sont devenues nombreuses aujourd'hui. Ils vendent. Alors, ce que je voudrais déjà dire, c'est que je ne suis pas d'accord. On parle pas de. Enfin, on peut pas parler de pédagogie Steiner, mais d'éducation Steiner. Et ça, c'est une différence fondamentale. L'éducation Steiner, elle est basée. Alors, elle se vend. Hein, elle se vend avec deux principaux. Point fort, enfin, elle vante deux principaux points forts, qui sont une acquisition de l'autonomie plus rapide et la créativité. Sur l'acquisition de l'autonomie, ce qu'on sait, c'est qu'on les rend tellement autonomes très jeunes qu'en France et de par le monde, vous pouvez vérifier tout ce que je vous dis, hein, il y a des sources dans tout ce que je vous dis. Cette autonomie a des limites, puisque souvent il y a eu des cas d'enfants blessés, parce que du coup ils ne sont même pas surveillés du tout. Voilà. Et quant à la créativité, un ancien adepte que j'ai régulièrement au téléphone, et donc là je l'ai appelé en lui disant « mais la créativité pour toi, pourquoi elle se vante de cela et en quoi c'est faux ?» Et il m'a dit « mais parce qu'en fait, quand tu regardes bien les enfants, les dessins des enfants, ce sont tous les mêmes. Parce qu'ils apprennent à mimer, ils apprennent le mimétisme, ils apprennent à recopier. » Et il m'a dit « je suis désolée, mais recopier, c'est l'inverse de la créativité. » Voilà, ça c'est une chose. Ce qu'on peut leur reprocher, en vérité, c'est pas d'être ce qu'ils sont, parce que comme je vous le dis depuis tout à l'heure, les gens ont le droit de croire en ce qu'ils veulent. Ça, c'est pas un problème. Mais ce qu'on peut leur reprocher, c'est ce fameux masque dont je vous parlais. Je fais attention, pourquoi, je tiens à le dire, c'est parce que l'anthroposophie et toutes ses filiales sont assez procédurière, et c'est pour ça que je prends mon temps en vous expliquant les choses. Mais néanmoins, la principale chose qu'on peut leur reprocher, c'est justement d'avoir leur masque vissé au visage et de ne jamais révéler ce qu'elle est vraiment. Voilà. Ça s'explique parce que s'ils expliquaient ce qu'ils étaient vraiment, peut-être qu'ils auraient un peu moins de candidats. En tout cas, à l'heure actuelle, les personnes qui nous appellent... Alors déjà, je tiens à dire que l'anthroposophie, c'est beaucoup de filiales et que les signalements que l'on a concernent principalement à 90% les écoles Steiner-Waldorf. Et que, effectivement, ça ne doit pas être facile de dire qu'ils fondent leur enseignement sur, par exemple, une conception de la maladie vue comme un message divin lié au karma et à la réincarnation, hein, je vous en parlais tout à l'heure, donc, qui est donc pour eux aussi leur source d'opposition à la vaccination, sur leur vision du monde qui comprend une évolution hiérarchisée de l'humanité. Je tiens à dire, je sais qu'ici, certains ont lu mon mémoire... et savent que la théosophie sur les questions de hiérarchie de l'humanité, il y a ce qu'on appelle les races racines, et que ça a été une inspiration pour les nazis, je tiens à le dire. Je n'ai pas dit que les anthroposophes étaient des nazis, certainement pas. Mais en attendant, l'anthroposophie, si elle est tirée de la théosophie, elle a également ses bases sur ces théories-là. Et sa conception de l'État est intéressante aussi, puisque elle est spirituelle. Et que l'État jouirait de la liberté la plus totale, et où l'éducation et la science seraient totalement soumises à cette spiritualité. Donc, en gros, je voulais aussi vous dire que sa conception de l'évolution karmique de l'enfant serait un processus lié à des forces surnaturelles. En gros, vous voyez bien, et ça, ils ne peuvent pas le cacher quand même, qu'il y a un fond ésotérique dans la pensée steinerienne. Et que si les gens adhèrent à cette pensée, ils peuvent y mettre, bien sûr, leurs enfants. On peut avoir le droit de croire au karma, à la réincarnation. Personnellement, comme ça, si je serais attaquée seulement moi, je suis athée, je suis très attachée aux valeurs républicaines et à la laïcité. Il aurait été hors de question que je mette mes enfants dans une école Steiner. Pour finir, je dirais que vous avez donc, je vous disais, beaucoup de filiales dans l'anthroposophie. C'est-à-dire que vous avez une banque. Il y a une banque, il y a du vin, il y a de l'agriculture, il y a des produits cosmétiques. Et moi, j'ai jamais entendu parler de la banque Freinet, de l'agriculture Freinet. Voilà, c'est donc une grosse entreprise. Ce qui n'a rien à voir avec les autres pédagogies alternatives. J'ai pris Freinet parce que je la respecte. Elle est respectable. Enfin, en tout cas, elle ne présente pas ce que je viens de vous dire. Quant à Montessori, je suis un peu mitigée. Je suis mitigée avec Montessori parce que elle... je ne sais pas si c'était dans ta question. Si
c'était sous-jacent.
Ah. Montessori, c'est un peu différent. Montessori, j'ai traduit des textes de l'italien, puisque Maria Montessori était italienne, et elle a fréquenté la théosophie à une certaine époque. C'est tout. Il n'y avait pas dans ce que j'ai traduit autre chose qu'une fréquentation. Voilà. Mais ce qui me gêne un peu, c'est le petit truc que je trouve en commun quand même. C'est que ce sont des éducations qui... Alors, on peut plus parler de pédagogie pour Montessori, très honnêtement. Mais ce sont des éducations qui, pour moi, n'amènent pas au collectif. C'est-à-dire qu'elles font des individus et non pas des citoyens. Et je me demande si aujourd'hui, ce sujet n'est pas fondamental. Est-ce qu'on n'a pas besoin de créer des citoyens et non pas des individus ? Alors, je pose la question et après, chacun fait ce qu'il veut. J'ai répondu.
Alors moi, je reviens un peu à nos quotidiens, nous, en tant que citoyens, justement. Quand on vous entend, on peut vite être inquiet. Et donc, se pose cette question, comment ça marche? Comment on se fait hameçonner? Est-ce qu'il y a un processus qui se met en route? Est-ce qu'on s'en rend compte? On ne s'en rend pas compte, j'imagine. Comment ça marche?
Comment on a fait pour ne pas devenir parano au bout de 50 ans? Non, parce que quand on connaît les rouages, comme je vous le disais tout à l'heure, j'aime bien cette expression, à chaque question légitime, le mouvement sectaire a une réponse ou le théoricien du complot a une réponse. Voilà. Quand on sait ça, on sait qu'à chaque fois qu'on va se questionner, qu'on va chercher des informations sur Internet, vous allez avoir des propositions de questions. C'est à chacun d'essayer, une fois que j'ai expliqué tout ce que j'ai expliqué, ce sera moins que les deux jours de formation qui vont suivre, mais d'avoir la connaissance nécessaire pour éveiller, et là je fais référence à l'exposition Franca, pour éveiller l'esprit critique des personnes. Il ne peut pas y avoir d'esprit critique s'il n'y a pas un minimum de connaissances. Et comme le phénomène sectaire n'est pas enseigné, n'est enseigné nulle part, on n'a pas ce minimum de connaissances pour exercer son esprit critique. Donc voilà, j'encourage les gens à essayer de se renseigner, à se former, de façon à pouvoir exercer son esprit critique en connaissance de cause. L'autre question, c'est chaque pratique de soins non conventionnelle, le yoga, la méditation, un mouvement radical, religieux, sont des portes d'entrée. Et encore un mouvement religieux, non, puisque quand vous rentrez dans une synagogue ou dans une mosquée, vous savez où vous allez, vous savez quelle est la doctrine. Les mouvements sectaires, il n'y a pas écrit secte sur la devanture. Hein. Donc c'est à vous d'avoir les réflexes, les bons réflexes, d'aller vous renseigner. Idem pour les pédagogies alternatives, ayez le bon réflexe. Vous savez, un de mes premiers appels quand je suis arrivée à l'UNATFI, c'était ça. C'était une dame qui avait mis son enfant dans une école Steiner. C'est un de mes premiers souvenirs de personnes en pleurs, puisque j'en ai eu beaucoup depuis. Mais c'était une femme en pleurs qui me disait « Je vous appelle parce que je suis une mère indigne. J'ai mis mon enfant dans une école Steiner et je n'ai cherché qu'un an après... » l'avoir mis dans cette école, ce qui était vraiment ce qui était le fond de la doctrine, et j'y suis complètement opposée et je suis une mère indigne. Et là je lui ai expliqué non, parce que les mouvements sectaires avancent masqués, parce que on ne vous dit jamais d'entrée quelle est la vraie nature de ce qui la sous-tend et de ce qui la fonde, et donc on vous a simplement leurré. Voilà.
Quels sont les indicateurs pour reconnaître une personne potentiellement sous emprise, notamment des enfants, s'il y a des parents qui nous écoutent, ou je sais que là, à la médiathèque, on a pas mal de professionnels qui travaillent avec les enfants. Voilà, est-ce qu'on a des petites choses à repérer éventuellement ?
Alors, chez les enfants, c'est un peu compliqué parce que l'enfant peut avoir rapidement un comportement un peu obsessionnel. C'est-à-dire que quand il va s'intéresser au sujet, même un petit qui va s'intéresser aux voitures de pompiers, il va être voiture de pompier pendant un certain temps. Bon, voilà. Là, chez le jeune, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il peut être très intéressé et avoir une forme de radicalité sur un sujet pendant un temps. Encore une fois, rappelez-vous la formule magique, emprise plus radicalisation égale triple rupture. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de triple rupture, il n'y a pas à s'inquiéter. Par contre, si le jeune commence... Et là, par contre, je reprendrai un peu ce qui a été dit pour la radicalisation islamique, parce que c'était tout à fait vrai. C'est-à-dire que tout ce système d'emprise progressive, où en étant attentif, on voit les changements. Changements alimentaires, changements vestimentaires, changements... tout à coup, il adorait le foot, et tout à coup, il n'aime plus le foot. Enfin, voilà. Tous ces changements-là doivent attirer l'attention.
Et justement, comment on les accompagne, ces jeunes identifiés, ou quand on voit ces signes, comment on travaille avec eux ?
Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas déradicaliser. Hein. Ça a été prouvé, mais nous, à l'UNATFI, ça fait très longtemps qu'on le sait. Parce que si on avait pu sortir les gens des mouvements sectaires en un claquement de doigts, on l'aurait su. Je vous rappelle ce que je vous ai déjà dit aussi précédemment, à savoir qu'il n'y a pas... être sous emprise, c'est s'interdire le doute. Donc vous ne pouvez pas les convaincre avec, et c'est ce qui est le plus difficile pour les familles et pour les proches, c'est que vous ne pouvez pas convaincre avec des éléments rationnels. Donc c'est très difficile. Il faut s'armer de patience, essayer de ne pas se confronter à lui, d'éviter le sujet qui fâche, si ça fâche. Hein, c'est-à-dire que si la personne réagit très brutalement quand vous essayez d'apporter, même gentiment, des éléments rationnels, il faut éviter le sujet de conversation. Ce qui est très important, et c'est le conseil premier que l'on donne, c'est de ne jamais rompre un lien avec une personne sous emprise. C'est-à-dire essayer de maintenir le lien, même si vous n'êtes plus du tout sur la même planète. Je pense à une gourelle qui, devant le juge, alors qu'elle a fait faire des choses atroces à ses adeptes, et que le juge lui met en face les atrocités qu'elle a commises, elle lui a répondu « Nous ne sommes pas sur la même planète, je ne vous répondrai pas parce que vous ne pourriez pas comprendre. » Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre ces personnes radicalisées et nous, qui fait que les relations deviennent extrêmement difficiles, et il faut s'arranger pour qu'elles ne deviennent pas impossibles. Voilà.
Et tout est dans le travail en amont, en fait. L'objectif, c'est vraiment d'éviter.
Alors, voilà, c'est pour ça. À l'UNATFI, ce sont les ADFI, c'est-à-dire nos associations locales qui s'occupent de l'accompagnement des victimes. À l'UNATFI, et mon travail en particulier, c'est plus de réfléchir à la prévention. Donc pour moi, c'est vrai que forcément, mais ça c'est mon métier, mais le travail que font nos ADFI est formidable et très très important et primordial. Mais la prévention, oui, effectivement, c'est un sujet de préoccupation, parce que la société évolue très vite, que quand la société évolue, les mouvements sectaires et la façon d'être une secte se modifient, et que nous, on rame derrière pour changer à chaque fois nos méthodes de prévention.
Alors, sans parler de déradicalisation, est-ce qu'on peut quand même dénouer les croyances complotistes chez un jeune qui commencerait à en avoir, ou même ça, c'est déjà très compliqué?
Mais non, c'est exactement la même chose. Surtout s'il est encouragé. Vous savez, vous connaissez aussi bien les biais cognitifs que moi. Et le problème, c'est que la personne qui croit en quelque chose va avoir tendance à aller chercher des informations qui vont venir confirmer ses croyances. Donc en fait, elle ne s'en sort pas toute seule, mais vous ne l'en sortez pas non plus, parce qu'elle est appuyée, elle est soutenue par sa communauté de croyances sur Internet. Alors, je ne veux pas tout dévoiler la formation de demain, mais, mais que ce soit des théoriciens du complot ou un mouvement sectaire, on est sur un territoire virtuel. Et en fait, l'idée, c'est de garder prisonniers les adeptes sur ce territoire. Même s'il est virtuel, je peux vous assurer que ça marche très bien. Je ne dis pas tout, parce que sinon, il n'y aura plus de surprise.
Oui, mais les auditeurs de Radio B ne sont pas forcément là à la formation de demain.
Non, mais je plaisante.
Peut-être représenter le partenariat qu'on a noué avec les Francas, avec l'idée d'un parcours qu'on a mis en place pour les enfants, les ados, les jeunes adultes autour de l'éducation aux médias et à l'info. C'est aussi un concept qui est à la mode. Radio B sur cette partie-là, et puis sur les théories du complot avec vous, les Francas.
Oui, exactement. Plusieurs ateliers ont été menés conjointement pendant les dernières vacances scolaires visant à apprendre à vérifier une information ou encore comprendre les mécanismes d'une théorie du complot.
Donc, c'est des enfants de centre de loisirs de Bourg-en-Bresse qui ont testé ces ateliers. Voilà ce qu'ils ont retenu.
Que quand on pose une question et qu'on nous dit la réponse, et faut toujours vérifier si c'est vrai la réponse ou pas. Je voulais dire que lundi, on avait recherché sur les ordinateurs si les informations ou les journaux, si c'était vrai.
Une information, ça doit être nouveau et vérifié par beaucoup de monde. Et il faut que ça concerne tout le monde.
Et ils récoltent des informations, les journalistes. Et par exemple, il faut qu'ils trouvent le plus d'informations précises. Après, ils vont le faire transmettre. Et après, ceux qui sont à la télé, à la radio plutôt, le transmettent.
Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'avec Justine, on a appris qu'est-ce que c'est un complot. Et avec toi, on a appris qu'est-ce que c'est une information, des infos. On a regardé, des choses. Tu nous as appris à faire des choses avec les micros, comment articuler, comment poser des questions aux personnes.
Tu nous as appris qu'il ne faut pas toujours croire aux vidéos qu'on voit, et aussi à apprendre, à poser des questions dans les micros.
J'ai appris ça, ce que c'était une information, qu'est-ce que c'était une image inversée, avant je croyais pas aux infox, mais maintenant j'y crois.
Et j'ai compris c'était quoi une infox.
On doit vérifier avant de croire qu'elle est vraie.
J'ai bien aimé quand on utilisait les micros.
Une interview, ça sert à savoir plus de choses et de demander des questions aux autres pour savoir plus de choses sur eux.
Des infos. On a trouvé des infos.
Des infos.
Des infos.
Bon, ils sont mignons, hein. Des journalistes en herbe, ils sont bien partis. Dans le dispositif monté là, par les Francas, il y a aussi ce travail de formation, une formation pour les professionnels de l'enfance que vous allez animer, Pascal Duval. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2-3 mots sans révéler tout le contenu, mais pour les auditeurs, auditrices de la radio qui auraient envie d'en savoir plus?
Alors déjà, je suis assez contente parce que c'est un programme de formation qui est en préparation depuis un certain temps. Et on a fait un colloque sur les enfants au mois de mars, je crois. Et on a eu la chance, j'ai vraiment une grande chance de rencontrer Lorraine Derocher, qui est une chercheuse canadienne qui a beaucoup travaillé sur justement les enfants. On a beaucoup échangé toutes les deux, et du coup elle m'a déclenché, j'ai eu le déclic grâce à elle pour pouvoir finaliser ce programme de formation que ces personnes vont avoir, ils vont en avoir la primeur, voilà. Et ce programme de formation, il est, alors à chaque fois, c'est un peu, il faut d'abord comprendre le phénomène sectaire pour pouvoir après un peu approfondir sur des sujets particuliers. Il faut comprendre les mécaniques pour pouvoir savoir en quoi ça concerne les enfants, en fait, tout ce qu'on est en train de raconter là. Et le point fort, c'est quand même la sacralisation de la maltraitance. Parce que je pense que quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. Quand on a compris que les mouvements sectaires vont donner un sens divin ou un sens karmique aux viols perpétrés sur les enfants, on a compris pourquoi les parents laissent faire et on a compris pourquoi ça se fait encore aujourd'hui, malheureusement.
Justement, hein, quand on n'est pas professionnel de l'enfance, mais quand on est un parent, ou qu'on est un proche d'enfant, comment on s'informe sur tout ça? Où est-ce qu'on retrouve de la ressource sur ces sujets?
Alors, je crois qu'on a plus de 10 000 articles sur notre site. Donc, je conseille à tout le monde d'aller sur le site de l'UNADFI, qui est quand même très complet. On a aussi un numéro de téléphone. Vous avez à nous écrire où vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Et après, bien sûr, il n'y a pas que nous. Il y a le CCMM qui fait un excellent travail. Dans le coin, il doit y avoir... Le problème, c'est que vous êtes une région où il n'y a pas grand monde. J'en profite pour faire un appel aux bénévoles, hein, s'il y en a que ça intéresse, s'il y en a qui ont encore un peu de temps libre à la retraite. Plus près de chez vous, ça doit être le CLPS qui est à Vesoul. Donc, vous voyez, ça commence à faire une petite trotte quand même. Non, vous avez Lyon, bien sûr. Mais c'est notre association, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Je suis désolée, c'est encore nous. On est à Lyon. La personne qui s'occupe de notre association de Lyon participera à la formation demain, de façon à se faire connaître et justement pour que les gens puissent avoir un contact avec elle et ne pas hésiter à la contacter. Vous savez, même une question, on est les seuls, et ça c'est important, on est les seuls à prendre des appels même anonymes. C'est-à-dire qu'on estime, nous, que les gens ont des craintes tout à fait justifiées d'avoir peur de donner leur nom. Voilà. Contrairement à une autorité publique où on va vous obliger à donner un nom, avec nous, vous n'êtes pas obligé de le faire. Le but est que la confiance s'instaure et qu'au bout d'un certain temps, surtout s'il y a un danger réel et imminent, on puisse avoir les coordonnées de la personne pour pouvoir agir. Mais en attendant, lors du premier appel, vous n'êtes pas obligé de donner votre nom. D'ailleurs, ça nous donne des trucs très drôles sur notre site où les gens s'inventent des pseudos très drôles. Voilà.
Eh bien, merci Pascal Duval pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes directrice et porte-parole de l'UNADFI, l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes. Merci Corentin, vous êtes salarié des Francas de l'Ain. On a préparé cette émission ensemble. Merci pour le boulot. Et c'est pas fini pour les Francas, hein, puisqu'il y a un autre gros projet qui vous attend.
Oui, exactement. On a pour volonté de créer une maison départementale des droits de l'enfant, un pôle ressources visant à sensibiliser le grand public et à outiller les professionnels de l'enfance. C'est d'ailleurs ma mission principale.
Alors, on a hâte de voir la suite. Merci à la médiathèque Césaire de Bourg-en-Bresse et ses équipes pour l'accueil. Merci à la sauvegarde de l'enfance. Merci à la préfecture de l'Ain pour le soutien.
Je tenais également à remercier l'association Le Moutard qui nous a prêté son expo quiz junior « Éveiller l'esprit critique, parlons-en ». Pour les personnes qui sont présentes avec nous à la médiathèque, cette association est la créatrice des Expo Quiz, des outils prétextes à échange et à la discussion avec les publics sur des sujets à fort enjeu sociétaux. Celle que nous avons aujourd'hui s'adresse aux enfants de 9 à 12 ans et a pour objectif d'analyser avec eux des situations qui peuvent mener à des conduites extrêmes.
Et enfin, merci à Jimmy Franqui à la technique et à bientôt sur les bonnes ondes de Radio B.